VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 17h en temps universel. Bonsoir, bienvenue. Le nouveau premier ministre bissau-guinéen, Bassirou Dia, dont le gouvernement a été investi lundi, a annoncé ce mercredi sa démission à la suite de l'invalidation par la Cour suprême de sa nomination. Conséquence de cette décision, la Guinée-Bissau va vers de nouvelles élections législatives. Les détails à Bissau avec notre correspondant Noua Mankali.
L'information a été rendue officielle à la présidence de la République par le chef du gouvernement Bassirou Dia à sa sortie d'audience avec José Mario Vaz et qui a informé que les 8 juges conseillers de la Cour suprême qui exerçaient le rôle de la Cour constitutionnelle ont donné leur décision de déclarer inconstitutionnel le décret numéro 6/2015 du président bissau-guinéen José Mario Vaz qui avait nommé Bassirou Dia comme premier ministre. Face à cette situation tant attendue par les bissau-guinéens, Bassirou Dia sans tarder a garanti qu'il va présenter ce jour une lettre de démission au président José Mario Vaz. Bassirou Dia.
Comme la Cour suprême de justice a considéré inconstitutionnel le décret numéro 6/2015 qui m'a nommé comme premier ministre, en conséquence de cette décision, je vais présenter une lettre de démission au poste de premier ministre pour formaliser cette décision de demande de démission.
Les juges considèrent que la décision devrait être communiquée aux partis politiques puis relâchée au public. A déclaré la note de la Cour suprême de justice. On rappelle qu'un groupe d'avocats contestant la nomination de Bassirou Dia le 20 août dernier avait déposé le 26 du même mois à la Cour suprême une ordonnance demandant d'examiner la constitutionnalité de la décision du chef de l'État de nommer le premier ministre Bassirou Dia contre la volonté du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert PAGC, parti vainqueur des dernières élections législatives en Guinée-Bissau. Une situation qui peut encore mener le pays dans une instabilité politique. Noua Mankali, Bissau, VOA Afrique.
Élections en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont donc dans l'attente de la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle du 25 octobre. La liste a été rendue publique il y a quelques instants. Nous apprenons d'Abidjan, le président sortant Alassane Ouattara brigue un deuxième mandat face à une opposition morcelée. Pas moins de 33 personnes avaient déposé leur candidature, dont certaines folkloriques. Et l'annonce de la liste par le Conseil constitutionnel devrait de facto donner le coup d'envoi de la campagne, même si celle-ci n'est pas censée commencer le 11 octobre. On reviendra sur cette nouvelle dans nos prochaines éditions. À Dakar, le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré se poursuit devant un tribunal spécial africain. Après la lecture de l'acte d'accusation, la Cour espérait entendre M. Habré, mais celui-ci a refusé d'ouvrir la bouche en restant immobile sur sa chaise.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Au Burundi, une position militaire a été attaquée hier soir dans la localité de Kiyenzi, dans la commune de Kanyosha, en province de Bujumbura rurale. Un assaillant aurait été tué, un autre blessé et une arme Kalachnikov saisie. L'armée affirme avoir été confrontée à des assaillants armés. Au moins 2000 personnes ont fui le combat. Reportage Christophe Nkurunziza.
Les témoignages de la population à Kanyosha, sur les hauteurs surplombant la capitale, indiquent que mardi soir vers 18h, un groupe d'hommes armés ont attaqué la position militaire située sur la colline Nyamaboko de la zone Kiyenzi dans la province de Bujumbura rurale. Des témoignages corroborés par l'armée qui précisent que deux assaillants ont trouvé la mort, trois militaires blessés et une arme saisie. Très tôt ce mercredi matin, l'armée était à la poursuite des assaillants. Des tirs ont été entendus par la population. Les sous-administratifs de la localité font état de moins 2000 personnes qui ont fui leur maison. Quasiment les collines de Gisovu et Muvumu sont désertes, la population ayant fui vers la paroisse de Buhonga et Anyamirawa. Ces habitants affirment que les affrontements entre assaillants et l'armée étaient intenses hier soir. Depuis quelques mois, le Burundi s'enfonce dans une dangereuse spirale de violence qui était concentrée sur certains quartiers contestataires de la capitale. Malgré ces violences qui ont fait une centaine de morts et un coup d'état avorté à la mi-mai, le président Pierre Nkurunziza a été réélu dans une élection qui était contestée par des opposants et la société civile. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Rwanda voisin, la Cour suprême s'est déclarée aujourd'hui compétente pour statuer sur la requête du Parti démocratique vert, cette petite formation d'opposition qui tente d'empêcher en justice une réforme constitutionnelle permettant au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017. Le Parti démocratique vert, seule formation politique à s'opposer à une telle réforme, assure que l'article 101 de la Constitution du Rwanda est intangible et il a demandé à la Cour suprême d'en bloquer toute modification. République démocratique du Congo, Martin Kobler, le représentant spécial de l'ONU sur place, proteste contre l'interdiction dans le pays du film « L'homme qui répare les femmes » consacré au combat du gynécologue congolais Denis Mukwege en faveur de milliers de femmes violées. Monsieur Kobler estime que l'interdiction de ce documentaire est une atteinte inadmissible à la liberté d'expression et demande instamment aux autorités congolaises de revenir sur leur décision, a déclaré aujourd'hui Charles Bambara, le chef de l'information publique de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, réalisée par le cinéaste belge Thierry Michel et sa compatriote journaliste Colette Brickman. L'homme qui répare les femmes montre l'œuvre du docteur Mukwege dans son hôpital de Panzi à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. Les autorités congolaises disent avoir interdit la diffusion de ce documentaire parce qu'à leur avis, il témoigne d'une volonté manifeste de salir l'image de l'armée congolaise.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Épidémie d'Ebola, voilà une semaine qu'aucun nouveau cas n'a été enregistré en Guinée, une première depuis le mois de mars 2014, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Le point, Michel Joseph.
Cela fait 7 jours qu'il n'y a pas eu de cas d'Ebola en Guinée, a annoncé le docteur Bruce Elwood, responsable de la lutte contre l'épidémie en Afrique de l'Ouest. La prudence reste toutefois de mise, car la période d'incubation du virus est de 21 jours. C'est la plus longue période enregistrée sans nouveau cas d'Ebola en Guinée depuis mars de l'an dernier. Pour Bruce Elwood, cela signifie que la maladie est de mieux en mieux contrôlée, et ce, malgré la saison des pluies, qui rend encore plus complexe la surveillance de l'épidémie, avec des routes presque impraticables dans la région. Partie en décembre 2013 du sud de la Guinée, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a fait plus de 11 300 morts pour plus de 28 100 cas. Un bilan sous-évalué de l'aveu même de l'OMS. L'OMS espère mettre un terme à l'épidémie d'ici fin 2015 et prépare actuellement avec les autorités des pays concernés la phase 3 de la réponse à cette crise sanitaire. Elle consiste notamment à contrôler les risques résiduels de réapparition de la maladie liée à la persistance du virus chez ceux qui ont survécu à la maladie.
Et face à l'afflux massif et ininterrompu des demandeurs d'asile en Europe, l'Allemagne demande à l'Union européenne d'ouvrir davantage ses portes. Pour sa part, dans une allocution au Parlement européen aujourd'hui, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a exhorté les pays de l'Union européenne à faire preuve de solidarité et à accepter 160 000 réfugiés. Jacques Aristide.
Ce n'est qu'un premier pas, selon la chancelière allemande Angela Merkel, qui appelle à un système plus ouvert de quotas obligatoires pour ces personnes qui ont un droit à l'asile. La seule petite île grecque de Lesbos accueille plus de 20 000 candidats à l'exil, soit le quart de sa population. La Grèce, débordée, permet à ces migrants de passer vers la Macédoine, la Serbie, la Hongrie ou encore l'Autriche pour rejoindre leur destination rêvée, l'Allemagne. Ce pays s'attend à 800 000 demandes d'asile rien que cette année. Le gouvernement britannique propose d'accueillir 20 000 migrants sur 5 ans. La France pourrait accepter 24 000 réfugiés dans les deux prochaines années. Federica Mogherini, qui dirige la diplomatie européenne, a appelé tous les pays européens à agir avec le même courage, même de l'autre côté de l'Atlantique, le Venezuela, le Brésil et le Québec se disent prêts à participer à cet élan de solidarité.
En Somalie, les djihadistes Shebab ont affirmé aujourd'hui détenir des soldats ougandais à la suite d'une attaque contre une position de l'AMISOM, la force de l'Union africaine en Somalie. Kampala réfute, affirmant qu'aucun de ses militaires n'était porté disparu. En Algérie, 2 islamistes armés ont été tués aujourd'hui par l'armée algérienne dans le département de Bourmedès, situé à 50 km à l'est d'Alger, a annoncé le ministère de la Défense sur son site internet. Les 2 hommes auraient été tués lors d'un ratissage de l'armée dans cette région où opèrent, selon les autorités, des éléments d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. En Algérie, une 10aine de soldats avaient été tués dans une embuscade à 150 km au sud-ouest d'Alger, revendiquée par Acmi, selon le ministère de la Défense. défense, plus de 60 islamistes ont été tués depuis le début de l'année, une centaine en 2014. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Prochaines informations, Le Monde aujourd'hui, c'est dans 20 minutes seulement. Ce sera avec Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Merci de nous avoir fait confiance.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.